Combien de temps s'est-il écoulé ensuite ? Pas très longtemps, je crois. Mais cela m'a semblé une éternité. Je me sentais au bord du monde, prêt à basculer de l'autre côté. Puis j'ai repris mes esprits. Le paysage alentour a commencé à reprendre des couleurs. J'ai caché les serviettes pleines de sang derrière moi et relevé Nakata. Je l'ai serré très fort contre moi et lui ai demandé pardon. « C'est ma faute. Pardonne-moi, » lui ai-je dit. Il semblait lui aussi en état de choc. Il avait le regard vide et ne paraissait pas m'entendre. Tout en le serrant dans mes bras, j'ai dit aux autres élèves de se remettre à la cueillette des champignons. Ils m'ont obéi sans protester. Sans doute ne comprenaient-ils rien à ce qui venait de se passer. C'était si étrange, si brutal. Je suis resté debout, serrant l'enfant contre moi. J'avais envie de mourir, de disparaître. Là-bas, à l'horizon, la guerre barbare et cruelle se poursuivait, faisant d'innombrables victimes. Je ne savais plus où était le bien, où était le mal. Je ne savais plus si le paysage sous mes yeux était réel ou non, pas plus que les couleurs ou le chant des oiseaux. J'étais seul au fond de cette forêt, en proie au désarroi, avec tout ce sang qui coulait de mon utérus. Je ressentais de la rage, de la peur, de la honte. Je me suis mis à pleurer, doucement, en silence. C'est alors que les enfants ont commencé à s'évanouir les uns après les autres. Vous comprendrez sans doute que je ne pouvais pas confier des choses aussi crues aux militaires qui m'interrogeaient. C'était la guerre. Nous devions avant tout garder les apparences. J'ai donc omis dans mes déclarations l'incident que je viens de vous décrire. Je n'ai pas dit non plus que j'avais frappé Nakata. Ainsi que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je crains d'avoir fait obstruction à l'enquête et à vos recherches en vous cachant ces faits capitaux. Je suis soulagé de vous avoir tout dit maintenant. Ce qui est étrange, c'est qu'aucun des enfants ne s'est souvenu de cet incident. À leur réveil, ils ne se rappelaient ni des serviettes tachées de mon sang, ni des gifles que j'avais données à Nakata. Ce souvenir s'est complètement effacé de leur cerveau. Je l'ai vérifié discrètement en les interrogeant un par un après leur évanouissement. Peut-être qu'à mon insu, ils étaient déjà dans un état hypnotique à ce moment-là. J'aimerais aussi vous donner en quelques mots mes impressions sur Nakata en tant qu'institutrice. Je ne sais pas ce qu'il est devenu par la suite. Après la guerre, un général américain m'a dit qu'il avait été transféré dans un hôpital militaire de Tokyo et qu'il avait fini par reprendre conscience après un assez long coma. Mais je n'ai pas obtenu de renseignements plus précis. Enfin, sans doute en savez-vous plus que moi à ce sujet. Nakata était, comme vous le savez, l'un des 5 enfants réfugiés de Tokyo placés dans ma classe. C'est lui qui avait les meilleurs résultats. Il était de loin le plus intelligent. Il avait de beaux traits, était habillé avec élégance. Il était doux de caractère et plutôt discret. Pendant les cours, jamais il ne levait la main de lui-même. Cependant, quand je l'interrogeais, il répondait correctement. Lorsque je lui demandais son avis, il l'exposait avec finesse. Il comprenait tout de suite ce que j'expliquais, quelle que soit la matière. Dans toutes les classes, on trouve au moins un enfant de ce genre. Ceux-là, on peut les laisser faire. Ils évoluent à grands pas par eux-mêmes, entrent plus tard dans de bonnes écoles. À l'âge adulte, ils ont de bonnes situations, sont bien intégrés à la société. Ils sont programmés dès la naissance pour devenir compétents. Pourtant, certains détails me tracassaient. Je discernais parfois en lui une sorte de résignation. Même quand il s'attaquait à un sujet ardu et parvenait à surmonter la difficulté, il manifestait à peine cette joie que suscite le travail accompli. Il ne paraissait pas faire d'efforts particuliers pour réussir, ni ressentir de peine ou de frustration quand il tâtonnait à la recherche d'une solution ou qu'il se trompait. Jamais il ne poussait de soupir. Jamais il ne souriait. on aurait dit qu'il faisait les choses parce qu'il fallait les faire. Il traitait les tâches qui se présentaient à lui avec dextérité mais sans passion. Il me faisait penser à un ouvrier à la chaîne, un tournevis à la main, serrant les vis de chaque pièce détachée que le tapis roulant fait passer devant lui. J'en ai déduit que cet enfant devait avoir des problèmes familiaux. Je ne peux rien vous dire de plus précis puisque, naturellement, je n'ai jamais rencontré ses parents, qui étaient restés à Tokyo. Mais, dans ma carrière d'institutrice, j'ai connu quelques cas de ce genre. Des enfants brillants qui, justement à cause de leurs compétences, subissent une grande pression de la part des adultes qui les entourent. On leur impose des objectifs toujours plus difficiles à atteindre, et souvent, submergés par l'ampleur du travail à accomplir, ces enfants perdent toute spontanéité et tout sentiment de satisfaction. Ils finissent par se fermer et deviennent parfois totalement introvertis. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour parvenir à ouvrir un cœur ainsi verrouillé. Les cœurs d'enfants sont malléables. On peut les façonner à sa guise. Mais une fois déformés et endurcis, il est difficile de les ramener à leur état d'origine. Naturellement, ce genre de choses relève de votre spécialité à vous, professeur, et je suis bien mal placé pour vous en parler. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi senti une menace planer au-dessus de ce garçon. À plusieurs reprises, ses expressions, ses gestes m'ont paru être l'espace d'un instant, des réactions de peur, une sorte de réflexe instinctif comme peuvent en avoir ceux qui ont été longtemps exposés à la violence. Je ne saurais jamais quel genre de sévices il a subi. Nakata savait très bien se maîtriser et dissimulait habilement cette peur qui l'habitait. Mais les subtiles crispations de ses muscles faciaux à certains moments ne m'ont pas échappé. J'ignore dans quelle proportion, mais je suis sûr qu'il y avait de la violence dans sa famille. À force de côtoyer des enfants, on devient sensible à ce genre de manifestation. La brutalité est monnaie courante dans les familles rurales. Les fermiers travaillent du matin au soir jusqu'à l'épuisement et parviennent tout juste à joindre les deux bouts. Lorsqu'ils sont en colère et éméchés de surcroît, les coups précèdent vite les paroles. Personne n'en fait un secret. Leurs enfants se moquent des coups et dans ces cas-là, on rencontre peu de véritables traumatismes. Mais le père de Nakata était professeur d'université. Sa mère, à en juger d'après les lettres qu'elle m'avait écrites, semblait être une personne extrêmement cultivée. Autrement dit, il s'agissait de citadins d'un milieu social plutôt élevé. Si violence il y avait dans cette famille, il devait s'agir d'une forme bien différente de celle que subissaient quotidiennement les petits campagnards, une forme complexe et cachée. Le genre d'acte dont un enfant ne parle pas. J'ai d'autant plus regretté de l'avoir frappé au cours de la sortie en montagne. Je le regrette profondément aujourd'hui encore. C'est la dernière chose au monde que j'aurais dû faire. Éloigné de ses parents par les mesures d'évacuation et placé dans un nouvel environnement, il était en situation de se confier à moi. En le giflant ce jour-là, j'ai tué en lui le désir de s'ouvrir qui commençait peut-être à naître. Je me suis dit que je réparerais ma faute. J'étais prête à y consacrer tout mon temps et toute mon énergie. Mais les événements qui ont suivi ne m'ont pas permis de le faire. Nakata a été envoyé, toujours inconscient, dans un hôpital militaire de Tokyo, et je ne l'ai plus jamais revu. Les regrets sont restés dans mon cœur jusqu'à ce jour. Je revois encore son visage quand j'ai levé la main sur lui. La peur intense et la résignation qu'il y avait alors dans ses yeux. Je vous ai écrit une bien longue lettre, et avant de l'achever, je voudrais mentionner une dernière chose. Quand mon mari est mort, peu avant la fin de la guerre aux Philippines, je n'ai à vrai dire pas ressenti un si grand choc. J'ai surtout éprouvé un profond sentiment d'impuissance. Ce n'était pas du désespoir, ni de la colère. Je n'ai pas versé une larme. Je savais que cela allait arriver. Je savais que mon mari allait perdre sa jeune vie sur un champ de bataille. Le sort en avait décidé ainsi depuis ce fameux jour, un an plus tôt, où j'avais fait passionnément l'amour en rêve avec lui, où mes règles s'étaient déclenchées de manière intempestive, où j'avais escaladé la colline avec les enfants, puis frappé Nakata, et où les enfants avaient sombré dans un incompréhensible coma. Dès ce moment, j'avais accepté la mort de mon mari comme une inéluctable réalité. Quand on m'a annoncé la nouvelle, ça a été pour moi la confirmation d'un fait dont j'avais déjà connaissance. Une partie de mon âme est restée dans cette forêt. J'y ai vécu une expérience qui se situe bien au-delà de toutes celles que j'ai pu connaître ensuite au cours de ma vie. Je m'arrête ici. Et vous souhaite, cher professeur, une réussite toujours plus grande dans vos recherches. Prenez bien soin de vous. Bien sincèrement.